France Inter.
Yo Frédéric, alors j'ai écouté ton passage dans le débat de midi et tu as été vraiment très très bon, hein, je te félicite. Mais il y a un moment, il y a une des autres intervenantes qui a bien précisé que pour couvrir toute la pop culture, il faut parler également de Joséphine Ange Gardien et de Camping Paradis. Du coup, on attend le blockbuster sur Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis. Allez, bon courage.
Oui, Monsieur Sigris, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vous avez fait une émission sur Assassin Royal. J'ai commencé et paf, j'ai plus de vacances. L'été est fini, j'ai manqué les Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je retourne travailler.
Oui, bonjour Frédéric, bonjour Blockbuster. Ah, aujourd'hui c'est Transformers. Ça, c'était quand même un truc quand t'étais gamin, enfin, qui m'a vachement impressionné, quoi. D'avoir tous ces véhicules qui se transforment en robots, tous ces robots qui se transforment en véhicules, et qu'en plus, ça existait en jouets, et ça marchait vraiment. Une manière de les transformer, de les avoir debout, et après de les faire rouler, des choses comme ça, c'était génial. Bon, les jouets coûtaient un peu cher, il me semble, quand même, à l'époque. Puis aussi, aussi grâce à Pete Gadget, j'ai connu ça, parce qu'en fait, à un moment, ils ont sorti un des épisodes en BD, un des épisodes de comics Transformers, et franchement, c'était encore plus cool de le voir en dessin, et puis après, bien sûr, en dessin animé, avec la planète. La planète géante, qui est un robot géant, et alors celle-là, ça, c'était le top du top. Enfin, ouais, c'est pas ma série préférée au monde, mais quand même, elle m'a bien marqué quand même à cette époque-là. Allez, je vous aime, bonne émission, à plus et des bisous.
To be or not to be, not to be.
Il ne vous aura pas échappé qu'Alain Delon est mort à l'âge de 88 ans. Depuis hier, une pluie d'éloges, un monstre sacré nous a quittés, une légende du cinéma s'est éteinte. Sur tous les plateaux de télé, on entend la même chanson. Delon, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Autant de phrases toutes faites, extrêmement pratiques pour des salles de rédaction en gueule de bois des JO et en attente d'une nomination de Premier ministre qui ne vient toujours pas. Si vous écoutez mes chroniques depuis plusieurs années, je ne vais pas vous faire l'affront de me faire passer pour un grand admirateur de l'œuvre de Delon et encore moins de l'artiste derrière. Néanmoins, quoi qu'on pense de lui, Alain Delon était un blockbuster de la culture française. Et d'ailleurs, on lui consacrera une émission jeudi. L'incarnation d'un moment où l'on entretenait encore une forme de ferveur et de culte pour le cinéma et ceux qui le faisaient. Alain Delon, c'était non seulement une star de cinéma, mais surtout une star des films du dimanche soir sur petit écran. Ce rendez-vous familial où on regardait la même chose dans la même pièce. Le socle d'une culture cinéphile commune. Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès, Pierre Richard, Bourville, Lino Ventura, Jean Gabin, Michel Morgan, Romy Schneider et Alain Delon. Les Avengers d'un cinéma hexagonal en quelque sorte. Avec la disparition d'Alain Delon, on entérine aussi la disparition d'un type de cinéma, d'un moment qui précéda l'avènement des plateformes et des multiples écrans qui fait qu'on regarde ce qu'on veut chacun dans son coin. Alain Delon, c'était l'incarnation d'une France qui se pensait, à tort, unie. Un visage qui a fasciné bien au-delà de nos frontières et qui a inspiré notamment Boichi Terasawa, le créateur du manga Cobra, pour créer l'un de ses visages de son personnage, l'autre étant Jean-Paul Belmondo. Un Alain Delon qui, bien avant Jean Dujardin, a brillamment joué Zorro. Un Alain Delon immortalisé pour toute une génération par son guignol de l'info. Il est parlé souvent de lui à la troisième personne, car il avait compris ce qui saute aux yeux quand on regarde son incroyable carrière. Ça faisait déjà bien longtemps que son image ne lui appartenait plus.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Before time began, there was the cube. We know not where it comes from, only that it holds the power to create worlds and fill them with life. That is how our race was born. For a time, we lived in harmony. But like all great power, some wanted it for good, others for evil. And so began the war. A war that ravaged our planet until it was consumed by death. And the cube was lost to the far reaches of space. We scattered across the galaxy, hoping to find it and rebuild our home, searching every star, every world. And just when all hope seemed lost, message of a new discovery drew us to an unknown planet called Earth. But we were already too late.
En 1983, les fabricants de jouets Tommy et Hasbro créent le fantasme ultime et stéréotypé des petits garçons des années 80, les Transformers. Des robots géants qui font la bagarre et qui se transforment en véhicules. Pourquoi ? Comment ? On s'en fout, parce que c'est cool. Depuis, Optimus Prime, le leader des Autobots, livre une guerre sans merci contre Megatron, le chef des Decepticons, sur une multitude de supports. Comic book, dessins animés, jeux vidéo, films live ou d'animation, les Transformers n'ont eu de cesse de se réinventer depuis 40 ans, prouvant, à l'instar de Barbie, qu'un jouet de plastique peut aussi être le support d'histoires passionnantes pour les petits comme pour les grands. Et pour parler de ça, je suis en compagnie de Ada Charin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice du site balljoint.fr,
ouais.
Un site spécialisé dans l'actualité des jouets rétro ou récents, et vous êtes une grande passionnée de Transformers.
Exactement.
Avec nous également, Antoine Trollet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé une chaîne YouTube Magnus, dédiée à la licence Transformers, donc vous êtes un fervent collectionneur, et d'ailleurs, vous avez combien de figurines comme ça ?
Bientôt 1000. On va approcher très bientôt de ce chiffre. Donc,
Au
dernier comptage, 958.
Voilà, ah oui.
C'est le chiffre exact.
Ok, très bien. Avec nous également, François Hercouet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur éditorial d'Urban Comics.
C'est ça.
Et de retour, Robert Ospian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes acteur, réalisateur et scénariste, et par ailleurs, l'auteur de Michael Bay, La fin de l'innocence, paru en 2022 aux éditions Aardvark.
Tout à fait.
Let's roll.
Vous êtes probablement... les tout derniers Rescue Bots encore actifs. Votre unique mission est de sauver les habitants de cette planète. Et bien sûr, d'apprendre à les connaître.
Mais ça veut dire être en contact avec eux ?
Vous serez nos ambassadeurs auprès des habitants de cette planète. Les tout premiers Autobots à vivre aux côtés d'une véritable famille humaine, à étudier leurs habitudes, à se plier à leurs règles, et à travailler avec eux à sauvegarder cette planète. Tout au long de cette mission, vous ne devrez être à leurs yeux que des machines. De simples robots sans état d'âme.
Comment ?
Les Terriens sont habitués à une technologie de pointe, c'est l'évidence même. Mais de là à admettre l'idée que des robots vivent au milieu d'eux, votre présence créerait sans doute une belle panique.
Nous ne pourrons donc aider les humains que si nous cachons ce que nous sommes, hein, c'est ça ?
Tu as une fois de plus parfaitement résumé la situation, Heatwave. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire de toi le chef de cette mission.
C'était un extrait du dessin animé Transformers Rescue Bots, série américaine de 2012, diffusée en France sur la chaîne Tigi. Ada, Antoine, j'ai une première question à vous poser. Comment avez-vous découvert les Transformers et à quel moment vous vous êtes dit « Cette licence, je veux la suivre jusqu'au bout de mes jours ».
Alors moi, ma première introduction à l'univers de Transformers, c'était un jouet. Un jour, en se baladant sur la plage, mon père a trouvé un petit jouet de Hound G1. C'est un Transformer qui se transforme en Jeep, quoi. Et j'avais adoré. Puis bon, voilà, quoi, le temps est passé et tout. Et j'ai redécouvert la franchise en 2009 avec les films. Et bon, quoi qu'on en dise de ces films et tout...
On va y venir.
Ouais. Disons qu'en fait, ouais, ils m'ont fait redécouvrir la licence et tout. Et depuis, ça m'a plus quitté, quoi. Enfin, je veux dire, là, quoi, je suis devenue une énorme fan de tout l'univers de Transformers.
Et qu'est-ce qui vous séduit tant dans cet univers ?
Il y a tellement de choses, en fait. Je sais pas vraiment en fait comment résumer ça. Enfin, je pense que je pourrais te parler des comics par exemple qui sont extraordinaires. Les comics More Than Meets the Eye, notamment la saga Breakers.
Oui.
Le fait que ce soit des robots, enfin en vrai, ils ont juste une apparence robotique. Ce sont des organismes à apparence robotique et tout, donc c'est pas vraiment des robots. Mais en fait, ce sont des personnages avec du coup des sentiments humains et tout. Et on peut en faire ce qu'on en souhaite. En fait, on peut créer des histoires de science-fiction. On peut faire plein d'itérations, on peut faire un space opéra et tout sans avoir la contrainte qu'on peut avoir avec un humain, c'est-à-dire le temps. Si jamais un Transformers est blessé, bah, on le répare facilement et puis c'est tout, quoi. Et c'est ça qui est génial dans cette licence, en fait. C'est qu'elle est... voilà, quoi.
Antoine ?
Alors, moi, pour ma part, c'était avec Transformers Animated en 2008. Donc, c'est une série animée qui a été faite en partie par les mêmes équipes que Ben 10 et la série Teen Titans, la première. Donc, avec un style graphique très particulier, mais aussi une histoire très, très bien écrite, qui réinventait complètement donc, les personnages, notamment d'Optimus Prime, etc.
Qui est le leader des Autobots. C'est celui qui se transforme en camion.
Exactement.
Pour ceux qui ont une idée lointaine.
Exactement. Et traditionnellement, donc, c'est le chef charismatique. Et là, en l'occurrence, dans cette série, c'est un jeune Transformer qui apprend encore beaucoup de choses. Et en fait, pour
qui n'est donc pas encore devenu un Prime.
qui était un Prime, mais dans cette série-là, en fait, les Primes n'ont pas la même signification que dans les autres univers. Et en fait, tout simplement, pour moi, ça a été un des héros de mon enfance. Et j'ai découvert aussitôt après donc la G1, le dessin animé des années 80. Je me suis dit, tiens, il y a beaucoup plus que ça. Et puis les films, les comics, et puis au milieu de tout ça, beaucoup de jouets aussi.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans les jouets? Quel type de collectionneur êtes-vous? Parce que c'est vrai qu'il y a les collectionneurs qui achètent des figurines et qui jouent avec. Hein, c'est l'axiome Toy Story. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui jouent avec ou est-ce qu'on fait partie de ceux qui les laissent sous blister pour ne pas y toucher?
Bah, pour ma part, c'est les deux. Alors bien sûr, quand j'étais petit, c'était des jouets purement et simplement, hein, je les rangeais dans des caisses, etc. Et puis vers 2010-2011, je me suis dit, je commence à en avoir de plus en plus. J'ai commencé à les exposer sur des étagères. En fait, petit à petit, je suis vraiment devenu un collectionneur plus, on va dire, comme on l'entend, dans le sens de tout mettre sur des étagères, un peu complétiste sur les bords. Et aujourd'hui, depuis peut-être 4-5 ans, maintenant, c'est carrément le blister parfois. Donc voilà, ça prend beaucoup de facettes, mais voilà, c'est une activité en tout cas qui me suit depuis plus de 15 ans maintenant, mine de rien, et qui me suivra sans doute très très longtemps.
Je vous le souhaite. François Hercouet, comment avez-vous découvert les Transformers avant de présider à la destinée papier pour les publications françaises du reboot de Transformers?
Moi, ça a été en direct, en fait, dans les années 80. Alors, je crois même que on m'avait offert le Decepticon Shockwave, donc cette espèce de robot cyclope qui se transforme en pistolet laser. Et en fait, je pense que j'ai eu ce jouet-là avant même de connaître vraiment ce qu'était Transformers. Et puis après, j'ai connu les dessins animés et j'ai dû en avoir un seulement après, derrière, parce que ça coûtait tellement cher que c'était pas du tout sur le menu de Noël.
Oui, oui,
donc,
oui.
Bah, ça a été ensuite beaucoup plus de dessins animés que de jouets.
Donc c'était le dessin animé. Notamment, je me souviens qu'il y avait une sorte de rivalité avec une autre série de robots qui se transformaient en véhicules, les Gobots. Les Gobots, également, il y avait deux écoles. Il y avait l'école Transformers et l'autre, l'école Gobots.
Ah oui, c'est vrai. Non, moi, j'étais Transformers. Hein, c'était...
C'est bien, c'est ceux qui ont survécu.
Exactement.
Robert Ospian, votre découverte des Transformers, parce que je sais que vous êtes un inconditionnel, peut-être même le dernier défenseur de Michael Bay, s'il doit en rester qu'un, ça sera Robert Ospian. Mais avant que Michael Bay préside à la destinée des Transformers sur grand écran, comment avez-vous connu cette franchise?
Je pense que comme François, en fait, étant de cette génération-là aussi, moi je suis né en 1983, donc j'ai dû voir les premiers épisodes lorsqu'ils ont été diffusés. Mais je ne saurais pas dire si j'ai d'abord vu la série ou d'abord eu en ma possession l'un des jouets. Je sais que j'avais plusieurs des jouets et que j'ai regardé certains épisodes de la série. Après, je mentirais si je disais que j'avais développé à l'époque une appétence pour la série en particulier. Je pense que justement, il y a eu un gros blanc dans mon appréciation des Transformers entre cette période de l'enfance et la réinterprétation de la licence par Michael Bay en 2007.
Oui, donc c'est la réinvention qui vous a plus que le dessin animé d'origine.
Bah, étant amateur du cinéaste lui-même, c'était lui qui pour moi était l'attrait en fait dans cette nouvelle saga cinématographique. Et ensuite, j'ai été plutôt friand, plutôt client en fait de ces films, même si je leur trouve également des soucis et un certain déclin sur la longueur. Mais c'était plus spécifiquement la réinterprétation, la vision qu'on avait et qu'on a fait Michael Bay en se l'appropriant et en réussissant à proposer quelque chose qui se distinguait en fait de ce qui avait été fait, de ce qui pouvait se faire en animation, qui m'ont véritablement séduit purement d'un point de vue, on va dire, esthétique.
Ada, Antoine, comment est née la franchise Transformers?
Alors, pour la faire très simple, donc en 1983, des responsables de Hasbro qui se rendent au Salon du Jouet de Tokyo, qui découvrent les gammes Diaclone et Microchange, qui sont en fait des gammes de jouets de divers robots qui se changent en véhicules, en objets de la vie de tous les jours, notamment le fameux P-38 de Megatron qui se transformera en flingue. Et ils vont rapatrier ça en 84 aux États-Unis et en Occident pour devenir Transformers. Sauf qu'évidemment, pour diffuser tout ça, il faut un dessin animé, il faut une formule qu'ils ont déjà appliquée 2 ans avant avec G.I. Joe, qui est en fait de créer un comic book et une série animée. Pour ça, ils font appel donc à Marvel, qui produisait du coup les comics et qui a écrit aussi la série. Donc, septembre 84, le premier épisode est diffusé, et quelques mois avant, c'était en mai, qu'il y avait le comic book qui était lancé. Et en réalité, bah, ça a rencontré un succès tellement énorme qu'ils ont commencé à importer d'autres jouets. D'autres gammes du Japon. Un film est sorti, un premier film en 1986, avec notamment le dernier rôle d'Orson Welles, qui jouait Unicron. Et par la suite, bah, ça n'a fait
que... Redites-le, le dernier rôle d'Orson Welles, c'est
Unicron, c'est l'équivalent du diable chez les Transformers, qui a justement une voix très, très bah, iconique, justement, parce que c'est Orson Welles qui était, selon certains, presque sur son lit de mort au moment où il a enregistré les lignes, en fait. Et
là, il y a des cinéphiles qui disent « C'est ça qui l'a tué !» C'est ça qui l'a tué.
Peut-être, mais voilà, il est mort, en tout cas, quelques temps, effectivement, après avoir joué ce rôle, qui, à l'échelle de la licence Transformers, est majeur. Et puis, bah, suite à ça, effectivement, la licence n'a fait que de s'étendre. Alors, avec des déclins, puis des renaissances. Dans les années 90, on a eu Beast Wars, donc Animutant en France.
Oui, qui a été décrié.
Qui a été décrié pendant un temps à l'époque, parce que c'était un changement complet, c'est des Transformers qui changent en animaux, etc. On est revenu à la formule de base des véhicules dans les années 2000, avec la série notamment Transformers Armada, qui a rencontré un énorme succès. Et on suppose que c'est cette série, via son succès, qui a motivé Paramount à se lancer dans le premier film Transformers, qui a été mis en production du coup vers 2004-2005 à peu près. Puis Michael Bay a été recruté, évidemment, le début de la saga en live action, puis bah, les autres séries qu'on suivi, et puis les comics évidemment qu'on continuait. Chez IDW notamment, avec beaucoup d'histoires qui ont permis de réinventer complètement les personnages, les concepts, etc. Et de montrer que... Comme dit le jingle, faut pas se fier aux apparences, oui, avec les Transformers.
More than meet the eye. Oui.
Exactement.
François Hercouet, j'aimerais qu'on revienne sur le passé comic book de Transformers. Ça a commencé comme des BD et derrière, il y avait quand même des grands, grands noms de la bande dessinée américaine, notamment Jim Shooter, à qui on devait Secret Wars chez Marvel, le costume noir de Spider-Man, le Beyonder, tout cet affrontement. C'est à lui qu'on le doit. Et il y a aussi Denny O'Neill, à qui on doit Green Lantern et Green Arrow. C'est des grands noms de la bande dessinée américaine.
Oui, tout à fait. Mais à ma connaissance, c'était pour eux vraiment un travail de commande. Il n'y avait pas du tout derrière d'intention, de grandes ambitions artistiques. Mais après, devant le succès, ça a généré pas mal de suites. Ce qui a commencé comme une mini-série de quelques épisodes, c'est ensuite poursuivi devant le succès commercial. Et ça a même, en fait, inscrit une continuité qui n'existait pas, en tout cas, jusqu'ici dans les comics, même Marvel. Et cette continuité existait dans les comics de Transformers. Et c'est quelque chose qui, ensuite, a infusé dans les autres productions de Marvel. Donc, il y a au moins cet héritage-là de Transformers, d'avoir inscrit la continuité un petit peu comme nouvel outil, en tout cas, éditorial ou narratif, dans la BD américaine.
Merci François. On est ensemble pour parler des Transformers et vous savez, dans Blockbuster, on ose tout, hein. On peut faire des hommages à Alain Delon dans une émission pour les Transformers. On peut passer Limp Bizkit, et d'ailleurs je précise que c'est un groupe de Floride et non pas de Californie comme je l'avais dit auparavant. Il y a un auditeur qui me l'a rappelé, il y a des gens qui sont pointus. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, parlons de Transformers, écoutons Linkin Park avec What I've Done.
Cause I've drawn regret from the truth.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Triple Changer, Transformer, changé en train et en fusée, puis en robot guerrier, ou de voiture, en hélico, en robot pour gagner.
Les Triple Changer.
Triple Changer, Transformer.
Maman, je veux un triple changer, sinon je vais rater ma vie et je vais devenir animateur pour France Inter.
Voilà, j'ai pas eu mon triple changer. Ada, de quoi ça parle les Transformers? Parce que là, j'imagine pour les auditeurs, ils disent « Mais c'est pas possible, vraiment, je paye ma redevance pour ça.
» Alors, les Transformers, pour être très 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 concise, c'est une race alien, apparence robotique, qui vient de la planète Cybertron, qui en tout soit été créée par les Quintessons, donc une autre race alien. Soit c'est ils sont nés comme ça sur la planète, peu importe. Et
pourquoi ils se font la guerre?
Alors, disons qu'il y a pas mal d'itérations. Alors, dans la G1, c'est vraiment purement manichéen. Hein, c'est juste, alors, les Decepticons, ils sont méchants, les Autobots, ils sont gentils, et puis c'est tout, quoi. Récemment, on a eu, en fait, de nouvelles itérations, de nouvelles séries de comics ou autres, où justement l'origine de la guerre est beaucoup plus profonde. Alors ça peut être par exemple renverser un gouvernement en place, notamment par exemple dans Megatron Origins, dans IDW, où c'est tout simplement un régime qui est tyrannique, qui est en place, le régime fonctionniste, fasciste exactement. Et du coup, Megatron veut renverser ça et voilà.
Ah, donc Megatron, c'est un révolutionnaire à la base.
De base, c'est un révolutionnaire. Alors, si on peut le comparer, Megatron, c'est un peu Robespierre, hein, voilà quoi. Ouais. Malheureusement, il a sombré dans la folie, on va dire ça comme ça. Et c'est une sorte de révolutionnaire et il devient violent. La guerre, du coup, c'est un engrenage. L'engrenage, malheureusement, une fois qu'il est parti, il ne s'arrête pas. Et c'est comme ça, que l'origine de la guerre...
Et donc Optimus, c'est un conservateur dans cette version?
Dans la continuité à DW1, oui, on peut dire que c'est un conservateur. Hein.
Il commence en tant que flic, en fait, dans ces comics-là. Donc on peut dire qu'il fait partie du pouvoir en place. Mais... quand même, il faut rappeler que dans d'autres versions, c'est lui aussi donc soit un travailleur exploité, soit
un archiviste,
en fait, donc un métier plus noble, si je peux dire.
Dans Transformers Prime, par exemple, c'est un archiviste et Megatron, c'est un gladiateur. Donc, ils sont amis. Il y en a un, du coup, il en a marre du régime en place. Il va voir les Primes. Malheureusement, Megatron, il a une vision un peu trop... sombre, on va dire.
Trop
violente, exactement. En fait.
Oui, tu as des bonnes idées, mais c'est le moyen pour y arriver.
C'est ça, exactement. Et en fait, au final, à chaque fois, c'est Optimus qui est choisi pour être le nouveau Prime, et du coup, c'est la trahison utile, etc., etc. Mais vraiment, ça dépend des itérations, et c'est assez marrant.
Cette histoire donc, d'une société qui se fait renverser, c'est plus ou moins devenu l'origin story standard depuis une vingtaine d'années maintenant, au point que c'est ce qui va être adapté au cinéma dans le film Transformers One, qui sort du coup en septembre aux USA, en octobre en France, où là, effectivement, c'est l'origin story d'Optimus et Megatron, mais c'est
avec
surtout
Chris Hemsworth, Scarlett Johansson qui font les voix.
C'est ça, et en fait, c'est vraiment pour le coup l'origin story de la guerre, en fait, et puisqu'on a vu le film avec Ada en avant-première,
j'ai vu aussi.
On peut le confirmer, c'est... une adaptation extrêmement réussie de ce concept. En fait.
C'est ça, exactement.
Et question subsidiaire, pourquoi une race de robots extraterrestres choisit de se transformer en voiture ou en camion, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une explication autour de ça?
L'explication la plus simple, c'est quand il y avait les Quintessons, tout simplement, en fait. C'était juste des outils. Ils étaient vus comme des outils. C'était dans la G1, c'était juste des robots avec une intelligence tellement assez, avec des sentiments
développés.
C'est un peu le délire un peu à la Predator, à la Terminator.
C'est ça.
Mais et c'était juste par pure practicité. Ils pouvaient se transporter.
Transporter plus de choses, installer plus d'armes, se déplacer plus rapidement.
Exactement.
Donc voilà, après bien sûr, sur le plan réaliste, dans notre société à nous, c'est pour vendre des jouets,
Le réalisme avec les Transformers, je l'ai laissé loin quand même.
Mais d'un point de vue effectivement purement esthétique, etc., on notera quand même que la plupart des véhicules qu'ils utilisent sur leur planète sont complètement différent des véhicules terrestres. Ouais. Il y a juste les roues en commun.
Mais
la
c'est
limite.
Juste l'aspect pratique, en fait. C'est tout. Exactement. C'est pour se déplacer, au final. Et puis, c'est tout, quoi. Enfin,
exactement.
Quoi. Il y en a même qui se transforment, par exemple, je pense à Quartz ou encore même à Perceptor, qui se transforment en outils, littéralement. En microscope, par exemple, parce que c'est des scientifiques. Bon, voilà, quoi.
C'est ça.
Donc, c'est, vra... non, mais
la,
c'est vraiment...
La grande variété.
C'est juste...
Ouais, mais c'est un kiff. Moi, j'ai envie de me transformer en microscope. Pourquoi pas?
Bah, attends, imagine, tu peux te transformer en jet, tu peux vivre des millions d'années, tu pars explorer l'espace, tu vois. Enfin, c'est trop bien.
C'est ça. Et, alors, question subsidiaire, quel est votre Transformers préféré?
Alors, pour moi, c'est dans mon pseudo, parce que Magnus vient d'Ultra Magnus, du coup, qui est l'un des Autobots de la première génération, qui est grosso modo une, souvent, alors parfois le second, parfois en tout cas un Autobot très haut placé, parfois le frère d'Optimus Prime, voilà, qui est côté très sens de l'honneur. Et puis voilà, c'est, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup son design, et c'est ça qui m'a fait kiffer le personnage, qui a été beaucoup plus développé ensuite. Voilà,
lui, pour il se transforme en quoi?
Alors, il se transforme en camion comme Optimus, mais un camion de transport, donc qui peut transporter d'autres Autobots. Et c'était ça, justement,
l'argument.
Ah, lui,
l'ajout collectif.
C'est ça, exactement. Contrairement à Optimus, qui a juste une remorque avec des ustensiles dedans, le jouet d'Ultra Magnus se transformait, en fait. Donc, à l'avant, on avait une cabine qui était la même que celle d'Optimus Prime, et à l'arrière, sur le jouet, on avait effectivement une remorque où on pouvait mettre quatre Autobots pour les transporter. Et la remorque devenait une armure pour le perso qui, du coup, devenait beaucoup plus gros et impressionnant, massif, en fait, globalement.
Ada ?
Moi, j'en ai beaucoup trop, alors bon...
il faut en choisir un.
Ouais, je peux en choisir qu'un seul ?
Ah oui. Choisir, c'est renoncer, je sais que c'est difficile, mais...
Oh non, mais c'est parce qu'il y en a deux que j'adore, c'est pour ça.
Allez, deux. Allez.
Ah, merci, allez. Ça va, non, ça va.
C'est l'été.
du coup, j'adore Hot Rod Rodimus, donc le successeur de Optimus. Donc bon, voilà quoi. Alors, soit en fonction des continuités, soit il se transforme en petite voiture avec des flammes, soit une sorte de gros camping-car.
Oui.
Bon, voilà quoi. J'adore ce personnage. Et sinon, ma version.
Se transformer en camping-car sur une planète où il y a que des robots.
C'est... Alors, en l'occurrence, c'est son mode terrestre.
C'est son mode terrestre.
C'est surtout. À l'époque, c'était un camping-car futuriste des années 80, en l'an 2005.
Non,
ils avaient une vision très particulière de ce que ce serait un camping-car 20 ans plus tard.
C'est vrai qu'il faisait très Jackie Tuning, quoi, quoi. Et sinon, j'adore Megatron, mais de la continuité à GW 2005. À un tel point...
Ah, c'est pointu, hein.
Parce qu'en fait, il
dans
devient...
Dans sa période bleue.
C'est parce qu'en fait, il devient un Autobot à la fin, parce qu'il se remet en question, il en a marre de la guerre et tout, et je l'aime tellement.
Et il se transforme plus en pistolet ?
Il se transforme plus en pistolet, il se transforme en tank, il me semble, justement.
Ah oui, c'est plus pacifique.
Ouais, c'est plus pacifique, ça va.
Il se transforme en fleur, en fait. Non,
mais après, il faut savoir que c'est devenu un médecin, il se sert plus de son canon ni
rien.
Mais
il pourrait se transformer en stéthoscope.
Voilà. Aussi, ouais. Mais c'est un point où je l'aime tellement, en fait, que je me suis littéralement fait tatouer un extrait d'un de ses poèmes, en fait, sur ma main. Voilà.
Parce qu'il écrit des poèmes, Megatron.
Oui.
Vous avez un poème de Megatron tatoué sur la main.
Ouais.
Ah, je pense que vous nous avez tous battus, mais de je ne sais pas combien de kilomètres de distance. Ouais.
Et d'ailleurs, dans cette continuité-là, on peut préciser que c'est les fameux poèmes que Megatron écrivait quand il était travailleur à la mine qui ont inspiré la Révolution.
Exactement.
Et qui ont tout fait dégénérer, en partie.
Le petit livre rouge de Megatron.
Un petit peu.
Oui,
exactement.
Voilà,
c'est
un
ça.
Peu. Wow. Il a son manifeste.
François Hercouet.
Oui, en fait, moi, j'ai presque plus une question, en fait, pour Antoine et Ada. C'est, en fait, je crois avoir compris que que Decepticons et Autobots, en fait, étaient définis par, notamment, les Decepticons se transformaient en armes, donc quelque chose d'assez militaire, et on était beaucoup plus société civile avec les Transformers, qui étaient beaucoup plus utilitaires, là, pour le coup. Alors, est-ce que ça se vérifie, hein, dans les comics, mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est respecté à chaque fois?
Le fait que les Decepticons soient toujours... Alors,
des armes, en fait.
En fonction des histoires,
ça
non.
Ça dépend,
oui. Mais... Oui, parce qu'il y en a un qui se transforme en magnétophone.
Oui, c'est vrai.
C'est
vrai.
Ça, oui, c'est
pas que ça peut être agressif.
Bah, ça dépend, par exemple, dans les... par exemple, dans les films, les Decepticons, ce sont littéralement... ce sont littéralement, en fait, des... c'est une armée. En fait, ce sont des guerriers. Et du coup, bon, voilà, quoi, effectivement, on reprend un peu ce concept d'armes, etc. et tout. Mais après, autrement, dans la G1, non, en vrai, au final, à part...
C'est variable.
C'est variable, en fait. Bah, surtout,
François Hercouet, vous avez plombé l'émission avec une question qui demande beaucoup trop de réflexion.
Non, mais en fait, dans la G1, c'était surtout des véhicules volants. En fait, les Decepticons volaient et les Autobots, bah, du coup, roulaient.
Roulaient.
Voilà.
Robert Ospion, je ne vous ai pas oublié.
Pas du tout.
Votre Transformers préféré?
Moi, ça s'est orienté vraiment particulièrement du côté du design, en tout cas, et évidemment exclusivement basé sur les films qui composent la quasi-étendue de mes connaissances dans cet univers. Je vais pas être très original, je pense que c'est Bumblebee, sans doute pour son design, mais également finalement aussi pour son incarnation dans les films, muette, enfin quasi muette globalement.
Qui s'exprime à base de chansons.
Voilà, d'extraits de films, exprimé à travers, sa radio. Exactement. Ouais. Et du coup, il a ce côté un peu attachant, en plus d'être, pour reprendre la terminologie du film, un peu l'ange gardien du protagoniste. Et ouais, du coup, je pense que c'est là que mon attachement est le plus fort. Même si j'ai bien aimé, on le voit pas beaucoup dans le deuxième film, Sideswipe, parce qu'il est genre juste profondément cool, il se transforme, il utilise deux de ses pneus comme l'équivalent de rollerblade, et il a deux espèces de lames au bout des bras, donc il est juste complètement badass, et là, oui, là il a obtenu mon adhésion aussi.
On est ensemble pour parler des Transformers, les Autobots qui font régner la justice, et justement, justice, oh, transition claquée au sol, on les écoute avec Never Ender, justice qui aurait pu être aussi présent lors de cette cérémonie des JO, mais vraisemblablement, il faisait autre chose. Quoi ? Nous ne le saurons jamais.
Blockbuster sur France Inter.
Madame, go! Laissez-les partir!
You're in no position. Désolé, mais tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit, à moins que tu n'acceptes de signer mon traité.
Condemn all of Cybertron to slavery. Et condamner tout Cybertron à l'esclavage.
I will not do that.
Pas question que je signe ça.
What do you know? Qu'est-ce que tu connais, toi, de l'esclavage? Regarde ce qui se passe dans les mines d'Energon ou avec les combats de gladiateurs. Mes frères et mes sœurs ont été sélectionnés pour endurer toutes ces souffrances. Pendant que toi et tes semblables, vous préfériez regarder ailleurs et ne rien faire.
Everything that you and I have... Toi et moi avons traversé des moments très difficiles. Mais au départ, on se battait pour les mêmes raisons.
What do you fight for now?
C'est quoi ton combat maintenant, Alpha Trion? Réponds de toi.
Of us both.
De nous deux, je crois bien.
C'était un extrait de la série d'animation américaine La Trilogie de la Guerre pour Cybertron, créée par F.G. DeSanto en 2020 et disponible sur la plateforme Netflix. Optimus Prime est interprété par Jason Marnocha et doublé en français par Roddy Benghezala. Megatron est interprété par Jake Fushi et doublé en français par Elias Shangel. François Hercouette, on assiste aux États-Unis à un reboot en bande dessinée de Transformers avec le Energon Universe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors tout à fait, c'est l'amour de Robert Kirkman, dont le créateur de Walking Dead et d'Invincible, qui, arrivé à bientôt 50 ans, commence à s'emparer à d'essayer de s'acheter ses propres, enfin, de racheter les jouets de son enfance. Donc il s'est vraiment intéressé toute sa vie à Transformers. C'est un univers qui l'a vraiment fasciné. Et il a conclu avec Hasbro en fait un accord d'édition. Et puis il a surtout su lancer la licence avec son don un petit peu du spectacle et de l'événementiel, puisqu'il a en fait ce qu'on appelle il a fait un style launch. En fait, c'est quelque chose qui un espèce de lancement camouflé. Dans l'une de dans sa nouvelle création qui s'appelle Void Rivals, qui est la nouvelle série de SF de Robert Kirkman, qui a en fait permis de lancer en fait en sous-marin son reboot en fait de Transformers, puisque à la page 20 en fait du premier numéro de Void Rivals apparaît en fait Jetfire, qui a vraiment surpris tout le monde. C'était, je crois, en juin 2023, c'était il y a déjà un an. Et en fait, les gens ont peu à peu compris en fait que Skybound, donc la maison d'édition de Robert Kirkman, s'était emparée des droits de Transformers et avait donc des projets relativement ambitieux pour la licence. Et à partir de ce premier numéro de Void Rivals, eh bien, va se développer tout l'Energon Universe, ou Energon en américain, et qui se compose de la série Void Rivals, donc avec des personnages créés par Robert Kirkman, mais dont les enjeux à un niveau plutôt space opéra vont avoir des impacts également sur la destinée des Transformers, qui elle se passe plutôt sur Terre.
Avec le Void Rival, c'est l'histoire de deux peuples qui se font la guerre également et qui ignorent tout l'un de l'autre.
C'est ça, et en fait surtout qu'on a tenu dans l'obscurité en disant voilà, l'autre est l'ennemi, l'autre est un monstre, l'autre est et autre en fait est vraiment l'inconnu par excellence, et les deux personnages principaux qui sont issus de ces deux peuples rivaux vont être naufragés sur un planétoïde et vont être obligés de s'entraider pour s'en sortir, et vont surtout découvrir tout ce qui les rapproche plutôt que ce qui les éloigne.
Et un relancement, une franchise qui s'étend, qui incorpore aussi, et alors ça a peut-être été une surprise pour les auditeurs qui sont moins pointus que nous sur le sujet, qui incorpore G.I. Joe également.
Oui, tout à fait. En fait, de la même manière que Transformers a été intronisé dans la série Void Rivals, eh bien, G.I. Joe va être intronisé par la série Transformers, puisque l'apparition, plutôt le réveil des Transformers sur Terre, avec, on va dire, le réveil en fanfare, surtout des Decepticons qui s'amusent, en fait, avec nous, pauvres humains, à nous exploser littéralement comme des mouches dans les airs, eh bien, c'est exactement ce que fait notamment Starscream, qui est le leader à ce moment-là de la charge des Decepticons.
Qui est une véritable ordure dans cette version.
Ah oui, il est super. On aime l'adorer. Enfin, le détester plutôt. Et je me suis dévoilé. Mais on a du coup, parce qu'on m'a pas demandé moi mon Transformers préféré.
Oh mais ouais. François,
Starscream, j'aime beaucoup.
Mais oui, mais alors vraisemblablement il y a quand même un biais pour les Decepticons depuis très longtemps. Hein. Premier jouet un Decepticon. Je vous connais, vous portez des t-shirts Decepticons. Là c'est Starscream, je commence à me méfier quand même.
Hein. Ne me donnez pas trop de pouvoir.
C'est bon à savoir. C'est bon à savoir.
Mais on avait du coup cette l'introduction en fait des premiers personnages de G.I. Joe dans Transformers. Notamment Duke va être traumatisé par sa première rencontre avec un Decepticon et va se dire l'humanité peut pas rester bras ballants devant l'invasion de ces gros robots, et il va du coup mettre en branle en fait ce qui va devenir G.I. Joe, enfin l'entité G.I. Joe, donc ces héros internationaux, on va dire,
qui se battent contre l'Empire Cobra.
Voilà, c'est ça, puisque Cobra forcément derrière va apparaître. Ouais.
Voilà, c'est d'autres jouets de cette époque qui eux tout aussi fait, ont oui. eu leurs heures de gloire, et donc voilà, c'est un univers étendu qui se crée. Et d'ailleurs, c'est dessiné, Transformers, c'est dessiné par un grand nom de la bande dessinée.
Ouais. Ça fait partie vraiment pour moi de l'intérêt même de cette relance-là, c'est la donne artistique. C'est qu'à chaque fois, on a des cadors en fait vraiment du monde du comics actuel. C'est notamment sur Transformers qui fait scénario et dessin, c'est Daniel Warren Johnson qui est une brute au niveau du dessin, oui. Qui va vous apprendre ce que c'est qu'un impact en comics. C'est que depuis Jack Kirby, moi, j'ai pas connu un auteur qui soit capable de retranscrire l'énergie, la vitesse, la violence, en fait, sur une page aussi bien que Daniel Warren Johnson, qui a notamment, en plus, été récompensé, au dernier Eisner Award, par deux statuettes. Il a remporté deux prix, en fait, pour la série Transformers, pour son œuvre, sur cette série-là. Et c'est vraiment, c'est tout, pour moi, l'intérêt de, notamment de cette relance pas Robert Kirkman, c'est qu'il amène vraiment cette qualité que, ben, on va dire, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais vraiment connu chez un autre éditeur sur ce type de licence-là. C'est vrai que toute l'ère IDW, donc je suis pas non plus le plus grand connaisseur, donc je voudrais insulter personne, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, en tant que lecteur de comics et puis éditeur, ça ne m'a jamais intéressé parce que le dessin était un peu trop random, notamment sur Transformers, mais également sur G.I. Joe.
Ah, il y a Antoine et, là, et qui Dodeline. Hein.
Ah là,
vous
ne
le voyez pas, mais il
le froisse. Mais on a du coup cette mise à jour un petit peu au niveau artistique avec cette Energon Universe, donc vraiment cette relance de manière très très ambitieuse, à la fois du Space Hop avec For Your Rivals, du spectaculaire avec Transformers qui se passe sur Terre, et pour un côté beaucoup plus à échelle humaine, on a du coup toutes les intrigues plutôt d'un peu de thriller un petit peu technologique avec G.I. Joe versus Cobra, évidemment.
Ada, Antoine, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de lire ces nouvelles versions de bande dessinée? Qu'en avez-vous pensé?
Moi, je les ai beaucoup aimées, en fait, ces versions-là. Ça change énormément, en fait. C'est vrai que, bon, voilà, quoi, si jamais on a l'habitude de... Si jamais on a l'habitude, en fait, justement, des comics IDW, bon, voilà, quoi, ça peut un peu dérouter et tout. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde.
Mais on a vu Antoine qui dodeline.
Non, mais Antoine, parce qu'en fait, oui, vas-y, si tu veux.
Non, c'est surtout
on
pour
est
le.
On est d'accord sur.
Oui, c'est sujet. Ça. C'est surtout pour le côté justement artistique. Moi, en réalité, le style de Daniel Warren Johnson, que j'aime beaucoup et dont j'avais déjà lu certains comics auparavant, m'a en fait rappelé un style d'un autre artiste d'IDW, justement, avant, qui est Nick Rocher,
donc
est beaucoup moins connu, qui est surtout connu dans le monde de Transformers, mais qui a notamment réalisé la trilogie des Wreckers et Last Bot Standing, qui raconte en fait l'histoire du tout dernier Transformers existant.
Last Bot Standing, c'est pas lui qui l'a dessiné, c'est Edison.
Ok, mais qui l'a écrit.
Oui, ouais, il l'a écrit, par contre, donc c'est bien taré, quoi.
Et c'est vrai que, voilà, dans les comics Wreckers, il a un style très brutal aussi et très violent. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui sort là-dessus demain. Parce que justement, pour moi, c'est un des comics les plus intéressants et qui a vraiment réintroduit la grande violence, en fait, notamment aussi dans ces univers-là. Et c'est pour ça que justement, j'ai retrouvé de ça, qui est un des meilleurs comics sur la licence, dans les nouveaux comics de Skybound.
C'est ça. Mais le problème, c'est que ça plaît pas à tout le monde, quoi. Enfin, je sais qu'il y a plein de fans, surtout la dernière phase d'IDW 1. Et IDW 2, bon, c'est pas fou non plus, mais bon, voilà, quoi. Et en fait, ça les a déroutés parce que, bon, voilà, quoi, c'est tellement beaucoup
Ce qui me fait sourire, c'est qu'on est tellement dans une conversation de niche, parce qu'on parle quand même des Transformers sur le service public, donc j'imagine déjà qu'il y a plein de gens qui disent vous m'avez perdu. Et donc là, on se rend compte que même à l'intérieur de la communauté des fans de Transformers, il y a des niches de niches.
C'est ça,
c'est pas possible.
Non, parce qu'il y a la niche IDW, et dans la niche IDW, il y aura en fait d'autres niches.
Vous pouvez vous-même vous transformer en microscope pour essayer de comprendre l'infiniment petite cette conversation.
Non, mais en fait, on pourrait faire un blockbuster sur chaque continuité, littéralement.
Pour faire simple, c'est un multivers. Voilà.
On va continuer de parler de Transformers et notamment des adaptations films de Transformers. Mais pour le moment, on écoute celui qui se faisait appeler Redcar et désormais Christine and the Queens. Il est de retour avec Rentrer chez moi.
C'est pas une raison pour tout foutre en l'air. C'est pas une raison, mais j'étais en colère. Je ne sais plus comment demander qu'on m'aime. Je suis impatient, tu me manques tant. Faire parler à l'enfant, tu peux. passage du temps.
Blockbuster, Frédéric Sigrist.
Battleground Transformer, avion et tank prêt à combattre. Ils s'assemblent en méga base, super puissants. Ils se transforment en un robot creux de dalle.
Le colossal Overlord.
Overlord Transformer.
Ce qui est formidable, c'est que ces pubs, elles vont vous rentrer dans la tête et y payer un loyer jusqu'à la fin des temps. Alors, on va parler cinéma. Eh oui. Michael Bay, l'homme de The Rock, l'homme de Les Ailes de l'Enfer. Non, pas des Ailes de l'Enfer, non, c'est Jerry Bruckheimer qui produit.
Même producteur.
Ouais. Non, mais d'Ambulance.
Ambulance, ouais.
Voilà, de Pearl Harbor.
Pearl Harbor, un magasin. Ouais, voilà.
Comment cet homme qui aime effectivement les explosions et auquel on a déjà consacré un blockbuster s'est retrouvé sur Transformers?
En fait, Michael Bay, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il fait Pearl Harbor, il se fait rejeter par la critique parce que c'était un peu sa tentative de faire du Soldat Ryan ou du Titanic et ça s'est effondré. Donc il fait un énorme doigt d'honneur pour terminer qui est Bad Boys 2, qui était à l'époque sa seule suite. Oui. Et après ça, il vire ses agents. Il décide de changer complètement, il abandonne Jerry Bruckheimer qui avait produit tous ses films jusque-là et il va sous l'égide de Spielberg qui lui dit « je veux être ton nouveau Bruckheimer », qui lui propose un film de science-fiction très sérieux qui est encore à ce jour un de ses plus sous-estimés, un de ses même plus mésestimés, qui est The Island.
Avec Evan McGregor et Scarlett Johansson.
Exactement, et qui est malheureusement, alors que c'est un de ses films les plus sérieux et peut-être même les plus posés en termes de visuel, est un flop, et même son plus gros flop au box-office. Et donc, Michael Bay a envie de revenir, et lorsque Steven Spielberg, encore lui propose cette fois d'adapter Transformers, chose qu'il n'a absolument pas envie de faire, finalement il se dit qu'il a envie de faire le film le plus pop possible, et il accepte de relever le défi. Et il arrive à faire un film qui est au croisement de la sensibilité spielbergienne, vraiment d'une production Amblin, donc l'histoire d'un garçon et de sa voiture, et de la sensibilité de Michael Bay dans une alternance de tons qui mêle un peu premier degré, très très très, enfin d'avoir cette scène par exemple où on y croit à fond de l'arrivée des Autobots, où vraiment c'est le type de montage pour lequel il est connu, où il y a une emphase absolue de tous les moments, et en même temps une espèce de second degré qui est ce qui selon lui fait passer la pilule de cette histoire à abracadabrand de robots qui se transforment en véhicules, comme le témoigne très bien la réplique lorsque, après un gigantesque monologue pour exposer leur historique, le héros demande à Optimus Prime « Mais comment est-ce qu'on m'avait retrouvé ?» et qu'il a cette simple réplique après un petit silence qui est « eBay ». En fait, il y a cette espèce un peu de mélange entre dérision et sérieux. Le fait qu'il ait ramené, ça visiblement c'était son initiative de ramener le corps militaire, en fait. Outre le fait qu'on puisse dire au premier abord que Michael Bay fétichise le corps militaire, c'était plus selon lui, selon ses propres dires, l'envie de ramener un certain réalisme, un certain sens du danger, en fait. C'est la raison pour laquelle il a ramené notamment l'armée. Et aussi le fait de pouvoir faire un film choral, un vrai film catastrophe, où on a à la fois des soldats, à la fois un jeune héros issu du quotidien, à la fois des gens du gouvernement.
Shia LaBeouf, pendant ce court instant où le cinéma américain a voulu de lui.
Ah, voilà, exactement. et après, c'est aussi un laboratoire extraordinaire pour quelqu'un comme Michael Bay, qui est constamment à la recherche, surtout à cette époque-là, en 2007, où vraiment la mise en scène commençait à se libérer grâce à l'apport du numérique, à la recherche du plan inédit, et qui va du coup utiliser le matériau Transformers pour en faire le moyen de creuser en fait le sillon de son cinéma baroque, de vraiment où on est vraiment dans quelque chose qui excite la rétine, et le fait d'avoir ces transformations qui du coup deviennent encore plus élaborées que ce que pouvait donner le dessin animé d'origine, où du coup il a insisté pour que les équipes des infographistes respectent le poids, la densité et surtout le nombre d'éléments et de pièces détachées qu'il y avait dans le véhicule original, dans la transformation. C'est-à-dire, il a dit, il faut qu'absolument chacune des pièces qui existent dans le véhicule original se retrouve dans la forme robotique. Ce qui a donné des designs...
Il y a Ada et Antoine qui dodinent encore.
ce qui a donné des designs qui apparemment ont déplu à pas mal de fans de la première heure, justement, le fait qu'ils soient un peu moins... carré, etc. Mais qui du coup donne des transformations qui tiennent presque du cubisme. Il y a un essayiste qui a écrit un texte où il compare notamment certains des visuels de Transformers 3 à un courant spécifique du cubisme qui est le futurisme italien. Et où effectivement on retrouve...
Mais moi ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu. J'ai dit ben évidemment, je voyais un camion se transformer, j'ai dit ah ça c'est le cubisme italien. Et à côté de moi, je dis ben non c'est un camion qui se transforme, j'ai dit néophyte béotien. Bah.
Mais il y a quelque chose d'assez ludique en fait à voir ce spectacle qui du coup est presque abstrait, de voir les objets se transformer, se mouvoir, qui est aussi une des particularités du cinéma de Michael Bay qui est un peu se... réapproprie le quotidien, réapproprie le réel pour en faire une espèce de version fantasmée. Et donc du coup, c'est un peu le terreau idéal pour quelqu'un comme Michael Bay, qui allait pouvoir s'en donner à cœur joie, à la fois pour des gags totalement puérils dont il a le secret, mais également pour voilà, cette esthétique surannée, cette esthétique d'image d'épinal plus large que nature, qui allait donner à la fois du grand spectacle et potentiellement deux, trois scènes aussi ridicules.
Bon, je pensais qu'on aurait le temps de développer encore un peu plus sur le cinéma, mais on est déjà au bout de cette émission. Donc, Robert, je lance l'invitation. Ada, Antoine, on fera une autre émission pour parler à des films Transformers.
J'adorerais faire ça.
Grand plaisir.
Parce que je pense qu'on peut rester une heure dessus. Hein.
Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Ada Charin. Merci Antoine Magnus. Merci Robert Ospian. Merci François Hercouette. J'aimerais remercier également Charles De Silla qui réalise cette émission. Une émission préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani. Et à la technique aujourd'hui, Mathias Alléon. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le répondeur de l'émission ou en parler directement avec moi sur Instagram. Et demain, on se retrouve pour parler du justicier aveugle de chez Marvel, Daredevil.
Les Dinobots Transformers, ce sont des monstres préhistoriques, gardiens de la planète. Face à l'ennemi, ils se transforment en robots fantastiques.
Les nouveaux Dinobots.
Et on va retrouver un monde nouveau avec Camille Diao. Bonjour Camille.
Bonsoir Frédéric. Alors ce soir dans un monde nouveau, on va parler d'intelligence artificielle sous toutes les coutures. Voilà. Comment éviter que l'IA ne reproduise, voire amplifie les préjugés déjà bien ancrés dans nos sociétés? On posera la question à un philosophe, Rémi Demichelis, qui sort un livre sur le sujet. Et puis on recevra un artiste qui utilise l'IA, Eric Tabouchi, qui réinvente un peu les paysages de France à l'aide d'une application qui s'appelle Midjourney. Voilà le programme, à tout à l'heure.
On reste sur Cybertron.